Toujours à l'écoute du réseau FM+, le 91 MHz si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes, ou bien le 103.1 sur l'agglomération nîmoise, et puis au-delà, www.fmplus.org. Ou encore, vous pouvez toujours aussi acquérir de manière gratuite l'application sur iPhone. Android, il paraît qu'il y a encore des choses à faire. Alors on revient vers vous, Michel. Vous avez proposé une musique nostalgique, un regard dans le rétroviseur.
Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Bon, j'aime bien cette chanson. Nous avions, je crois, dans une émission précédente aussi passé « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Hein. Donc il s'agit d'une imploration. Hein. Nous avions dit que bon, ben, c'était une situation qu'il ne fallait pas souhaiter à quiconque, hein, être dans un état de mendicité, mendiller la pitié de quelqu'un. Hein. Donc nous avions dit que pour Édith Piaf, par exemple, « Ne me quitte pas » était indigne d'un homme. Hein, c'est ce qu'elle avait dit. Hein, un homme ne doit pas ainsi se répandre.
Juliette Gréco, si je ne m'abuse.
Oui, mais je crois l'avoir entendu aussi de la part d'Édith Piaf. Juliette Gréco, vous l'aviez dit, effectivement. Oui. Pour Juliette Gréco, un homme ne doit pas s'aplatir ainsi. Voilà. Hein. Bon, là, il s'agit d'une femme, Sylvie Vartan, mais le problème est le même. Hein. C'est vrai que cette idée d'une chute, hein, to fall in love, tomber amoureux. Hein. Donc là, nous sommes dans Eros. Hein. Bon, la pitié est envisagée, hein, mais disons, c'est une alternative. Ou bien c'est de l'amour, ou bien c'est de la pitié. Alors que maintenant, je vais défendre une fusion des deux, hein, un amour compassionnel, un amour qui intègre la compréhension du destin humain dans toutes ses modalités. Et alors, donc, je vais parler des relations entre l'amour et la tendresse. Alors, le second mot, tendresse, semble en retrait par rapport au premier, amour. On dit amour, bon, on veut connaître l'amour, hein, à tout prix. Quant à la tendresse, on se dit, bon, ben, c'est ce qui reste quand l'amour a disparu, en quelque sorte. Hein. La tendresse semble succéder dans la vie à l'amour, être en quelque sorte le deuil de l'amour, le reliquat, ce qui reste de l'amour. Hein. Quand l'amour violent et intense, quand l'incendie de la passion a disparu, alors reste la tendresse. C'est sûrement une modalité d'agapé, hein, mais donc tendresse semble venir après Eros, non seulement dans l'ordre chronologique, mais aussi dans l'ordre de l'importance. Eh bien, je ne suis pas d'accord du tout avec cette vision. Car il me semble, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus humain ou de plus humanisant que la tendresse ? La chanson dit très bien, nous en écouterons deux là dans cette émission. On ne peut vivre sans tendresse. Hein. Bon, et il faut écouter les chansons. Hein, vous voyez, souvent les chansons, comme bien d'autres œuvres considérées à tort, à mon avis, comme plus importantes, hein, les chansons sont instituantes. Elles sont des miroirs donateurs d'humanité. Elles nous façonnent et nous modèlent. Si nous n'avons pas ces miroirs dans lesquels nous refléter, nous sommes des morts vivants. C'est-à-dire, vous savez qu'un vampire, un mort-vivant, sa caractéristique, c'est de ne se refléter dans aucun miroir. Hein. Bon, donc, il n'a pas de reflet. Eh bien, il me semble que nous sommes vraiment humains, nous n'advenons à l'humanité que si nous avons des miroirs instituants qui nous façonnent de façon à ce que nous puissions ressembler à l'homme, à ce que doit être l'homme. Eh bien, dans certaines chansons, effectivement, il y a ce type de miroir, bien sûr dans d'autres œuvres, dans les romans, par exemple, hein. Sans les romans, comment pourrait-on s'y prendre pour faire sa cour à une femme, disait Paul Valéry, vous voyez, hein. Donc là, voilà, nous avons besoin de tous ces miroirs, hein, pour échapper à la zone instinctuelle, pulsionnelle, stricte, qui nous caractérise aussi, hein, mais pour, comment dire, nous projeter en avant vers un modèle d'identification. Alors, on connaît tous l'histoire de La femme du boulanger, qui est un film que Marcel Pagnol a tiré en 1938 d'un épisode de Jean le Bleu de Giono. Alors, je raconte un peu l'histoire. Dès que la boulangère voit son berger, la passion va la submerger. Elle va abandonner son mari et son foyer pour suivre son amant dans la montagne. Alors, désespéré, le boulanger n'a plus le courage de cuire le pain. Hein. Alors les villageois, pour retrouver à la fois leur pain et leur boulanger, si vous voulez, surtout leur pain, bon, eh bien, ils vont se regrouper pour ramener la boulangère à son mari, et c'est effectivement ce qu'ils font. Et le boulanger, dont le nom est prédestiné et symbolique, il s'appelle Aimable, hein, Il va pardonner à sa femme, une fois qu'elle est revenue, en passant sa colère sur la chatte de la maison qui a fait une fugue. Et alors il suit un admirable discours sur l'importance de la tendresse. Ça c'est admirable. Qu'avait-il donc le berger de plus que lui? Est-ce qu'il avait la beauté? Mais est-ce que c'est si important que ça? Je crois que Pagnol, vous savez qu'il ne s'embarrasse pas du politiquement correct. Il dit « les Chinois sont tous pareils, tous les nègres se ressemblent », vous voyez, des choses comme ça. À l'époque, on ne se censurait pas comme on le fait maintenant. Alors, la beauté, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. Et la tendresse, qu'est-ce que tu en fais de la tendresse? Voilà ce que dit le boulanger aimable. Ce n'est pas le berger qui se serait levé la nuit pour la couvrir, de peur qu'elle ne prenne froid. Ce n'est pas lui non plus qui lui aurait apporté le petit déjeuner au matin. Bien sûr, lui, le boulanger, il est vieux et laid. Mais qui est-ce qui aime le plus? Est-ce que c'est celui qui embrasse et qui embrase par la pulsion et par la passion? Ou bien celui qui agit au moyen de petits gestes pour donner sa tendresse à l'autre, avec ses petits riens qui sont tout, vous voyez? Et à la fin, elle est écrasée par tant de bonté, cette boulangère, et elle se repent, vous voyez? C'est très beau, très émouvant ce passage. La leçon de cette histoire, c'est aussi une leçon symbolique. C'est l'opposition entre l'ordre de la nature et l'ordre de la culture. Dans l'ordre de la nature, chacun est entraîné par son plaisir, comme le dit Virgile dans ses églogues, au livre 2, au vers 65. Trahit sua quamque voluptas, c'est-à-dire chacun est entraîné par son plaisir. Mais dans le second domaine, c'est autre chose de plus important sans doute qui est entrevue. Le dépassement des pulsions élémentaires au bénéfice d'une construction commune. Il faut noter que le berger est nomade, c'est un homme de la nature, il est toujours disponible et ouvert aux sensations nouvelles. Et les villageois, la communauté du village, ce sont des sédentaires, eux ils valorisent autre chose, la fixation, le projet, l'entraide, le sens du futur, etc. Et on sait assez que dans toute l'histoire des hommes, la sédentarité a succédé au nomadisme. C'est sans doute un trait essentiel de toute civilisation. Alors bien sûr, je ne suis pas angélique. Je pense que l'attrait pour la vie naturelle et le nomadisme persistent dans toute civilisation qui a choisi leur contraire. Et c'est le pouvoir de tout refouler. Quand on refoule quelque chose, l'attrait de ce qu'on a refusé n'en branque plus d'importance. On a vu plus haut dans une émission précédente le tragique de tout choix. Le fait de choisir... c'est un refus, et ce qui est refusé constitue une ombre qui est toujours menaçante. Par exemple, le livre essentiel de Denis de Rougemont qui s'appelle « L'amour et l'Occident » montre bien que l'Occident, qui a choisi dans ses mœurs agapé et le mariage monogamique, c'est-à-dire la vie sobre et patiente, ou bien la modicité quotidienne, comme le dit René Char, l'Occident qui a préféré justement agapé et la compassion, voit se surgir en lui comme refoulé, avec la force du refoulé, Eros et la passion, c'est-à-dire la vie exaltée et impatiente, qui sont d'autant plus tentants et séduisants qu'ils ont été refusés dans ce choix de civilisation. Par exemple, tenez raison, vous serez d'accord que les gens du voyage, par exemple, prenant un circambulant, ils attirent toujours les villageois, parce que, ils fascinent ces gens-là. Vous voyez Bohémiens en voyage de Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal. Il y a toujours on a choisi la sédentarité, on a choisi la fixation, mais on est toujours hanté par ces Bohémiens, non? Vous croyez pas, Redouane?
Par les temps qui courent, disons, sorte de vent de folie qui fait que l'attirance de l'autre, de l'altérité, de l'étranger, mais ça reste toujours dans cette ambiguïté, effectivement. Je suis à la fois attiré dans l'attirance et dans le rejet de ce qui est différent.
Voilà.
Parce qu'à la fois, ce qui m'attire, c'est l'altérité, c'est le danger, et en même temps le rejet parce que j'en ai peur.
Absolument. L'arbre et l'oiseau se partagent notre être, hein, disait aussi René Char. Donc il y a en nous un arbre qui plonge ses racines dans la, bon, ça, l'enracinement, etc., hein, d'entre le lieu où nous sommes, et puis l'oiseau qui va, qui vole, etc. Donc quand on choisit une option, on est hanté précisément par la part non choisie de tous nos choix. Choisir m'apparaissait non tant élire, dit Gide, dans les nourritures terrestres, que refuser ce que je n'élisais pas. Hein. Donc ce que je
n'ai
pas.
Un renoncement.
Et Spinoza nous dit omnis determinatio est negatio, c'est-à-dire tout choix, toute détermination est une exclusion. Donc on est hanté par ce que l'on a refoulé. Alors pour faire l'éloge de la tendresse, j'ai choisi comme deuxième morceau une belle chanson de Marie Laforêt qui s'appelle très précisément La tendresse, qui elle aussi n'est pas récente, mais qui a pour nous le charme des choses anciennes.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 dans le feu de la jeunesse, pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Marie Laforêt, toujours sur le 91 MHz, si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes 103.1, l'agglomération nîmoise est toujours en compagnie de Michel Théron, les méandres d'amour, Eros et Agapé. Et voilà, c'est toujours un regard dans le rétroviseur, c'est toujours important de regarder des choses immuables.
Oui, j'aurais pu choisir la version de Bourvil aussi, effectivement. Alors, les esprits forts vont sourire de la naïveté de ces chansons. Je ne suis pas de leur avis. Je pense que, même naïve, même je dirais kitsch. Vous savez ce que c'est le kitsch, hein, c'est l'eau de rose, etc. Bon, elles ont une certaine vérité, ou une vérité certaine, vous voyez. Puis qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux être malheureux et intelligent, ou bien être naïf et heureux ? Vous voyez, donc.
Mais je pense que ce sont les grands naïfs qui ont ouvert de nouveaux horizons. La naïveté, c'est pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de négatif. Quand on est trop prudent, justement, c'est-à-dire la naïveté supprime l'innocence. C'est une manière d'y croire. C'est ça l'espérance pour moi, avoir foi en, c'est être naïf, c'est accepter cette naïveté, parce que sinon on ne fait pas ce pas-là.
Absolument. Vous savez que j'aime bien, vous savez Redouane, que j'aime bien renverser les proverbes, on dit méfiance et mère de sûreté. Non, moi je dis confiance et mère de sûreté. Si on fait confiance, justement, ou à la vie, à Dieu si on est croyant, à la vie si on est agnostique, eh bien, finalement... la porte s'ouvre, hein, alors que sinon nous refermons toujours les portes. Alors, je pense que pour défendre tendresse et agapé, comme je le fais dans cette émission, je pense qu'on construit des choses et on se construit en se séparant de son monde pulsionnel, au bénéfice d'une représentation qui le dépasse. Hein. Il y a en nous ce que Freud appelle le principe de plaisir, hein, qui finalement nous tire vers l'animalité, en quelque sorte. Hein. Mais ce principe de plaisir doit céder la place à autre chose, et comme le dit Freud, là où est le « ça », le ça en allemand S, hein, ça, c'est-à-dire le monde pulsionnel, le ça qui est anarchique, doit advenir le moi qui doit être structuré. Alors il doit être structuré en considération justement de cette représentation du futur que Freud appelle le surmoi. Hein. Alors dans la problématique jungienne, c'est différent. Donc la zone pulsionnelle s'appelle l'ombre précisément, puis vous avez le moi, et puis vous avez au-dessus la persona, c'est-à-dire un mot latin qui veut dire le masque social, c'est-à-dire l'ensemble de valeurs que véhicule une société pour qu'elle se structure et se construisent harmonieusement, vous voyez. Hein. Bon, alors, ça, moi sur moi, Freud, ombre, moi et persona pour Jung, c'est la même problématique de toutes les façons. Alors, naïveté pour naïveté, soyons naïfs jusqu'au bout, Redouane. Racontons une histoire qui est un conte pour les enfants. C'est le fameux conte des trois petits cochons. Hein. Les deux premiers cochons hein, sont prisonniers du ça. Ils ont passé leur temps à folâtrer, à gambader, et n'ont pas eu le temps de bâtir une maison solide. Résultat, ils sont dévorés par le loup, c'est-à-dire qu'ils sont submergés par leurs pulsions. Mais le troisième cochon, qui a vu plus loin, vous voyez, la perspective, le sens du futur, hein, il n'a pas pensé qu'à s'amuser, mais il a pris le temps de bâtir une maison résistante, et donc il évite cette dévoration par le loup. Hein. Alors que les deux premiers cochons aient été dévorés ne choque pas l'enfant, malgré ce que l'on croit d'habitude, hein, et ce qui fait qu'on édulcore souvent cette histoire en les faisant survivre. Parfois, il y a une version édulcorée qui dit que les deux premiers cochons se réfugient dans la maison du troisième et donc ne sont pas dévorés. Moi, je trouve ça inutile. Hein. De toute façon, l'enfant, il va s'identifier à un des protagonistes du conte. Hein. À qui va-t-il s'identifier? Alors, espérons qu'il ne s'identifiera pas au loup, parce que ça serait un pervers. Bon, il va s'identifier au troisième cochon. Et donc, que les deux premiers, ses frères, soient morts, n'est pas gênant, je pense pas. Hein. Bon, il me semble que cette histoire des trois petits cochons a un sens très très profond. C'est-à-dire, il faut intégrer le « ça », hein, le dominer en quelque sorte, en ne se livrant pas pieds et poings liés à sa merci. Hein. De toute façon, cette histoire des trois petits cochons, elle choque moins, par exemple, que la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Vous voyez, cette fable, on l'apprend toujours aux enfants, à l'école primaire, hein. L'idée est comparable, hein. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. Bon, alors la cigale va demander de l'aide hein, à la fourmi, mais la fourmi lui dit que faisiez-vous au temps chaud? Eh bien la cigale dit je chantais, bon alors vous chantiez. « J'en suis fort aise, dit la fourmi, eh bien dansez maintenant. » C'est-à-dire que non seulement elle ne veut pas venir en aide à la pauvre cigale, hein, mais en plus elle se moque d'elle, hein, elle la raille dans son refus, vous voyez. Et ça c'est une fable terrifiante. Non, vous croyez pas, Redouane, l'enfant, il apprendra ça. Bon, on veut lui dire qu'il faut toujours penser au futur. La Fontaine sûrement veut nous mettre en garde contre le manque de commisération de la fourmi. Bon, mais si l'enfant, justement, dit bon que la fourmi a raison, hein, alors ça va faire de lui un être dur, non? Vous croyez pas, Redouane?
Oui, oui, nous avons là l'apologie du travail.
Oui.
On ne peut survivre que si on a travaillé dur, dans un conte comme dans l'autre. Et effectivement, la question de la solidarité, de la bienveillance, le droit à la paresse, c'est une société où tout cela n'a plus... de place. Et la culture, contrairement à ce qu'on peut penser, la culture, enfin chanter, danser, sont autant d'apports à l'économie et au développement intellectuel de l'être humain.
Voilà. Rousseau disait que les fables de La Fontaine n'étaient pas pour les enfants. Hein. D'abord, il les comprenait pas parce qu'ils sont trop difficiles à comprendre. Hein. Maître Corbeau sur un arbre perché. Bon, l'enfant va dire qu'est-ce que c'est qu'un arbre perché. Il ne voit pas l'anastrophe. Hein. Bon, il ne voit pas l'inversion. Vous voyez. Bon, d'abord, il ne les comprend pas. Et ensuite, s'agissant de la cigale et la fourmi, ça peut faire de l'enfant un être dur, hein, au cœur sec, etc. Hein. Alors, le rôle de l'instituteur, c'est de montrer à l'enfant que la moralité, c'est, il ne faut pas être dur et impitoyable vis-à-vis de ceux qui viennent nous demander de l'aide, vous voyez, hein, plaignons la pauvre cigale et ne disons pas c'est bien fait pour elle, vous voyez, hein, oui, bon, mais là c'est un problème d'exégèse,
de pédagogie.
Mais entre les deux textes, la cigale, la fourmi et les trois petits cochons, je préfère les trois petits cochons parce que dans les trois petit cochon, l'enfant est dynamisé, il peut apprendre tout naturellement cette vérité évidente qu'on ne peut pas toujours dans la vie en rester dans le domaine du désir. Alors là, il faudrait opposer, vous voyez Redouane, il me semble deux choses, le désir et la volonté. Le désir, c'est quelque chose d'immédiat, hein. Bon, c'est pulsionnel. Hein. La volonté, c'est la capacité qu'on peut avoir de dire non à ses désirs, au bénéfice de quelque chose que l'on anticipe. Par exemple, s'il fait très beau dehors, hein, et que j'ai envie d'aller me promener, ça c'est un désir, hein. J'ai envie de jouir du soleil, du ciel bleu, etc. Mais je peux, par volonté, décider de rester chez moi pour travailler, par exemple pour réussir un examen, etc. Vous voyez ? Donc, vouloir vraiment, c'est aller parfois contre son désir. Hein. C'est deux choses très très différentes, vous voyez ? Donc, le surmoi, au sens jungien, au sens freudien, pardon, et la persona au sens jungien sont transmis à l'enfant par la société, hein, par l'intermédiaire des éducateurs. Mais je pense qu'il suffit d'un peu de réflexion pour ne pas fonctionner seulement par obéissance et par mimétisme à ces normes sociales. Hein. On peut comprendre par soi-même qu'il faut, alors je vais dire la chose crûment, il faut accepter les frustrations. Voilà. Dans la vie, intégrer les frustrations. Hein. Et c'est parfois nécessaire pour solidifier une construction. Nous avons eu des enfants, Redouane, nous avons des enfants, vous et moi. Je pense qu'en tant qu'éducateur, il faut le montrer quand même, cette nécessité de... Moi, je me souviens, mes enfants, quand je leur interdisais quelque chose, ils disaient, mais alors, on n'est pas en démocratie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, la démocratie? C'est pas le fait de pas avoir de loi, d'être dans un système anarchique, mais c'est de se soumettre aux lois que l'on a soi-même édictées via nos représentants.
Mais j'ai le sentiment que c'est un vrai problème aujourd'hui, justement, la question de la frustration. Ça en fait des enfants tyrans. Il faut surtout pas les frustrer. Et la frustration, pour moi, c'est une manière aussi de dire qu'il y a des limites, on ne peut pas. Et la frustration est plutôt constructive, parce qu'elle génère de la volonté. Mais sinon, on a tout. C'est une société à crédit. C'est-à-dire, j'ai besoin de tout et je veux le tout maintenant. Donc, je ne vis pas avec ce dont je suis capable. Mais voilà, c'est, la frustration est pour moi psychologiquement quelque chose de positif.
Je suis tout à fait de votre avis. Mais le monde aujourd'hui, la mode est à l'immédiateté. Hein. On ne vit plus sur un report de jouissance. Hein. On a envie d'une chose, on veut l'avoir tout de suite. On ne fait même pas réflexion que le plaisir même peut y perdre là-dedans. Hein. Par exemple, si j'ai soif, hein, je peux avoir un verre d'eau à portée de ma main, je peux décider de le boire immédiatement ou bien d'attendre quelques minutes de plus ou un quart d'heure, etc., pour avoir davantage soif et pour avoir plus de plaisir à boire le verre d'eau. Vous voyez, d'un strict point de vue hédoniste, la frustration est parfois un aliment. Oui,
oui. Non, tout à fait. Alors, c'est peut-être une heure où il y a des enfants qui écoutent, quoique c'est l'heure de l'école. On peut dire que le Kama Sutra, qui est un livre, joue aussi sur la frustration. C'est-à-dire le plaisir, ce n'est pas arriver à l'orgasme. C'est justement ne pas avoir d'orgasme. C'est-à-dire que le plaisir, l'éros, n'est pas un aboutissement, mais un accomplissement.
Absolument. Alors, j'avais entendu parler de cela à propos du tantrisme. Hein, du tantrisme. Bon, c'est vrai que reculer le moment de la jouissance, dans tout le domaine que ce soit, est d'un strict point de vue, je dirais, hédoniste. Hein, je ne fais pas de morale, je ne suis pas professeur de morale. Peut donner davantage de dynamisme. Prenez par exemple, Redouane, l'exemple suivant. Imaginez un tuyau dans lequel il y a de l'eau sous pression qui passe dans le tuyau. Bon, si je perce un trou, alors je vais avoir un geyser, un jet énorme qui va jaillir du tuyau. Mais si je perce une pluralité de petits trous, j'aurai plusieurs petits jets dérisoires. Vous voyez, donc ça veut dire, ma métaphore signifie que dans la vie, lorsque l'on est tendu vers un but, on peut avoir plus de plaisir à terme, plus de gratification, que si l'on satisfait toutes ces petites envies dans l'instant qu'elles se manifestent, vous voyez, parce que ça devient une espèce d'hérétisme, c'est-à-dire de démangeaison, si vous voulez, c'est exactement ce que Socrate dit à Gorgias, le Protagoras de Platon, donc tu me fais penser à quelqu'un qui aurait la gale, qui éprouverait du plaisir à se gratter et qui toujours se gratterait, vous voyez, c'est ça l'hérétisme. Alors pour éviter cela, il faut se fixer un but, et finalement la vie sera aura plus de sel que si l'on satisfait toutes ses pulsions aussitôt qu'elle se manifeste. Alors j'ai choisi comme dernier morceau, toujours sur la tendresse, toujours une chanson ancienne, celle de Daniel Guichard, qui s'appelle aussi La tendresse.
La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux, c'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse. C'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, la tendresse. La tendresse, c'est un geste, un mot, un sourire, quand on oublie que tous les deux, on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre, l'amour finit. La tendresse, la tendresse.
Alors, on arrive à la fin de l'émission pour aujourd'hui, La tendresse.
Ah oui, c'est une très belle chanson. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. C'est magnifique, ça. C'est la bonne chanson de Verlaine. Elle dit, l'avoir reconnu que la bonté, c'est notre vie, que de la haine et de l'envie, rien ne reste, la mort venue. J'avais dit dans une émission précédente que quand on se dispute dans un couple, le plus intelligent est celui qui fait la paix le premier. Parce que c'est vrai, rien ne reste, la mort venue. Donc à quoi sert de se déchirer finalement? Il faut voir loin, vous voyez. Donc dans toute cette émission, j'ai défendu l'idée de voir loin par opposition à celle de voir tout près. Donc la perspective, cette perspective dont Valérie disait qu'elle était l'essence de la civilisation, cela vaut aussi dans le destin individuel de chaque couple.
Merci Michel, on arrive à, encore une fois de plus à la fin de l'émission sans qu'on se soit rendu compte. On se retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine on abordera, me semble-t-il, un nouveau paragraphe.
Oui, de... amour et perspective.
Voilà, donc vous pouvez vous préparer, hein, les perspectives.
Hein. Voilà.
Planifier, hein, c'est de l'amour planifié comme du bon temps des régimes communistes de l'Est.
Voilà.
Merci, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même longueur d'onde, et on vous souhaite de belles bien choses d'ici là. Au revoir.
Au revoir à tous.